l'épître de Paul aux Philippiens, sans doute la dernière fois pour cette année, en tout cas. Philippiens chapitre 4, nous allons lire les 9 premiers versets. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 1. C'est pour bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et trois fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Prions. Seigneur, nous te demandons que tu nous conduises par ton Esprit Saint, dans ta parole, que tu nous éclaires, toi qui es la lumière du monde, que tu illumines nos cœurs afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Amen. Dans cette lettre de Paul aux Philippiens, on sait qu'on a intitulé cette lettre l'épître de la joie. Le thème, c'est la joie chrétienne, la véritable joie. Paul enseigne aux croyants de Philippe, et aussi à nous, bien entendu, qui lisons maintenant cette lettre, que notre plus grand besoin, le plus grand besoin du croyant, du chrétien, ce n'est pas le confort de sa situation ou de ses circonstances, mais c'est la joie et la paix de Dieu. Parce que quand il écrit cette lettre, il est en prison. Et il leur dit ici, réjouissez-vous, et il prie pour qu'ils aient la paix de Christ. Au chapitre 3, verset 1, il disait déjà ceci, il dit, au reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis au chapitre 4 que nous venons de lire, et au verset 4, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et au verset 6 et 7, il leur dit de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître tous leurs besoins à Dieu dans les prières, les supplications, avec action de grâce. Et il ajoute, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il dit, réjouissez-vous, et puis il dit, priez, ne vous inquiétez pas, et vous connaîtrez la paix de Dieu. Et puis au verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'expérimenter véritablement la joie du Seigneur et la paix du Seigneur. Mais comment est-ce que cette vie de joie et de paix peut-elle être expérimentée? Eh bien, on voit ici dans la prière à Dieu, au lieu des inquiétudes. C'est ce qu'il dit au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, au lieu de s'inquiéter pour les choses, il dit, remettez toutes choses à Dieu dans la prière. Nous avions considéré cela il n'y a pas très longtemps. Et puis au verset 9, eh bien, on voit que cette paix et cette joie s'expérimentent, eh bien, dans la pratique d'une vie à l'exemple de l'apôtre Paul. Hein. C'est-à-dire, avoir Paul comme modèle à suivre. C'est ce qu'il disait déjà au chapitre 3, verset 17, quand il dit « Soyez tous mes imitateurs, faire et porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Mais ici, au verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il dit, voilà, vous avez vu comment j'ai vécu, comment j'ai réagi, faites de même. Et il ajoute, et la paix et le Dieu de paix sera avec vous. Mais il donne aussi, on pourra voir ça une autre fois, mais il donne aussi une troisième manière ici par laquelle, eh bien, cette vie de joie et de paix est expérimentée. C'est le verset 8 que nous voulons considérer aujourd'hui. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notez ici qu'il donne un devoir pour la pensée. Si je lis le verset dans une autre traduction, dans la traduction Martin, par exemple, il dit ceci, « Au reste, frère, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges, dit penser à ces choses. » Il dit penser à ces choses. Donc c'est un impératif qui est donné ici. Donc le mot qui est traduit ici, le verbe qui est traduit ici par soit l'objet de vos pensées dans nos traductions, c'est un seul mot en fait dans l'original et donc il est utilisé dans l'écriture pour traduire le fait de penser, de raisonner, d'imputer, d'être imputé, d'estimer, de croire, de se dire des choses, de considérer, de concevoir, parfois même de soupçonner, de se regarder, d'être mis, d'être tenu, de se proposer à ses yeux, d'avoir une opinion. Donc tout cela est contenu. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire là, le mot est parfois traduit de cette manière-là, 41 fois dans l'écriture. Et c'est le même qu'on retrouve, par exemple, quand vous vous rappelez, des pharisiens viennent voir Jésus et puis lui posent une question sur Jean-Baptiste. C'est plutôt Jésus qui leur pose une question, sur Jean-Baptiste. Et Jésus leur dit, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? Et la Bible dit en Marc chapitre 11, verset 31, « Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. » Et c'est le mot qui est utilisé, qui est traduit ici par « penser à ces choses », c'est le même qui est utilisé ici pour dire qu'ils raisonnaient ainsi entre eux, en eux-mêmes. Il dit « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, eh bien, etc. » Il craignait le peuple, parce que le peuple n'est Jean-Baptiste pour un prophète. Et puis après, ils ont répondu quelque chose. Il dit « Nous ne savons pas. » D'accord ? Donc ici, il y a l'idée qu'ils ont pensé aux choses, qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont pesé, qu'ils ont sous-pesé, qu'ils ont dit, ils ont regardé les conséquences que pourrait avoir une réponse ou une autre, et puis ils ont fait un choix ici. Et c'est un petit peu ça à quoi l'apôtre Paul invite les Philippiens ici. Quand il dit « penser à ces choses », il dit, voilà, il faut apprendre à réfléchir, à penser d'une manière particulière, si vous voulez expérimenter la joie et la paix qui viennent de Dieu. Ainsi, le devoir qui incombe aux croyants est celui de mener une réflexion saine dans sa pensée sur les choses. Le devoir de nourrir sa pensée d'une certaine manière. Ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit par exemple, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, le titre du message ce matin, c'est « Discipliner ses pensées ». Discipliner ses pensées. Nous voulons considérer deux choses. L'importance de discipliner ses pensées. Et puis, deuxièmement, la manière de discipliner ses pensées. Il est important, quand on lit ce que l'apôtre Paul écrit ici, de discipliner ses pensées. C'est évident ici. Les exhortations de l'Écriture ne sont jamais des exhortations gratuites. Quand l'Écriture nous exhorte à faire quelque chose, c'est parce que ces choses sont importantes et qu'elles ont, bien sûr, une utilité et que leur observation est incontournable. Hein, la Bible dit que tu as donné, le psalmiste dit, tu as donné tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et donc chaque fois qu'on trouve un impératif dans l'Écriture, nous savons que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Et ici, c'est un impératif. Si on le lit dans la traduction originale, l'apôtre Paul dit « Pensez à ces choses. Réfléchissez à ces choses. » Ici, celles qui sont telles qu'il les a décrites ici. Donc, discipliner ses pensées est une chose importante. Il est important, premièrement, de discipliner ses pensées à cause de l'impact des pensées sur la conduite de la vie. Proverbe 23, verset 7 dit ceci, car il est comme les pensées de son âme, après verset, mais dans d'autres traductions nous lisons, car comme il a pensé, par le nom, dans son âme, tel il est. Et littéralement, c'est-à-dire car tel il calcule en lui-même, et tel il est. Nous sommes ce que nous calculons dans nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Tel nous pensons, dit le passage ici, tel nous sommes. Et ce que l'homme est, c'est ce que sont ses pensées. Il n'est pas plus que ses pensées, il n'est pas moins que ses pensées. Ah, bien sûr, il peut montrer des choses différentes, mais en réalité, il est ce qu'il est dans ses pensées. C'est pour cela que quand Jésus, vous rappelez, était avec les hommes, il disait Jésus connaissant leurs pensées. Il ne s'attachait pas simplement à ce qu'il disait, mais il savait discerner dans leurs pensées et il savait que c'est là qu'on trouve le vrai homme. C'est tel il est dans sa pensée, tel il est véritablement. Et on prête à Jonathan Edwards, un théologien américain du 1703, il est mort en 1758, cette phrase, il dit « Les idées et les images dans l'esprit des hommes sont les pouvoirs invisibles qui les régissent constamment. » Les idées et les images dans l'esprit des hommes sont les pouvoirs invisibles qui les régissent constamment. Et l'Écriture dit exactement la même chose. L'Écriture montre le lien qu'il y a entre les pensées des hommes et les hommes eux-mêmes dans leur conduite. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul encourage les Philippiens à penser d'une certaine manière, parce qu'il sait qu'ils seront d'une certaine manière. Ils pourront expérimenter véritablement la vie chrétienne telle qu'elle doit être expérimentée quand leurs pensées seront droites, seront conduites bibliquement. Déjà, il qualifiait au chapitre 3, rappelez-vous, verset 19, les ennemis de la croix de Christ en ces termes. Il disait, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et là, comment il est défini ? Il est défini par leur pensée. C'est des gens qui ne pensent, en fait, qu'aux choses de la terre. Il parle de leur faim, il parle de leurs appétits, mais il dit que tout cela vient parce que ce sont des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Et dans l'Écriture, dès la Genèse, nous voyons déjà l'Éternel qui s'exprime sur la pensée même du cœur de l'homme. Il dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » En Genèse chapitre 6, verset 5. Okay. Ce qui fait l'objet de leur pensée ici, c'est ce qui façonne même leur conduite. Dans Romains chapitre 1, verset 21, rappelez-vous, l'apôtre Paul fait ressortir le lien qu'il y a entre les pensées et l'attitude des hommes qui sont corrompus, qui ont abandonné l'usage naturel de la femme pour se tourner vers un usage qui est contre nature, etc. Et il dit ceci, il dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, c'est ça qu'il dit. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et il y a un lien, vous voyez ici, entre la nature même de la pensée et la conduite, et ce que l'on pratique par la suite. Et on pourrait lire beaucoup de versets bibliques, mais Jérémie dit par exemple, « J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple, la part de l'Éternel, rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Au gré de ses pensées. Et je voudrais illustrer avec deux exemples, cela dans la Bible, deux exemples bibliques, l'exemple de Géasi, par exemple. Vous vous souvenez de Géasi. Hein. Donc, les pensées de l'homme, bonnes ou mauvaises, déterminent vraiment l'orientation de sa vie. Hein. Géasi était le serviteur de Élisée. Et vous vous souvenez quand c'était Naaman, je crois, qui est venu pour être guéri. Et puis Naaman a voulu offrir des présents au prophète. Le prophète a dit non, je ne prendrai pas de présents. Eh bien, la Bible dit que Géasi a pensé autrement. Et regardez comment il pense. Il dit, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. C'est une manière de dire qu'il pense ici. Il se dit en lui-même. Il dit par haute voix. Il se dit ça à lui-même dans ses pensées. Il dit, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Il dit, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Vous voyez? Il pense, je vais courir après lui. Et la Bible dit, et il a couru après lui. Il a pensé et il a fait. On pense toujours avant d'agir. Et ce que l'on fait est le produit de ce que l'on a pensé. Ce que l'on fait est le produit de ce que l'on a pensé. Le fils prodigue, rappelez-vous, quand il était parmi les cochons en train de manger des carouges, et puis il n'avait même pas pour lui, il n'avait pour les cochons et pas pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, étant rentré en lui-même, il pense. Il pense à quoi? Il se dit, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit à lui-même. Il est en train de calculer, il est en train de penser, il est en train de concevoir sa pensée. Et il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je meurs ici, je meurs de faim, je me lèverai, dit-il. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Écoute, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Au verset 20, le texte dit, il se leva et alla vers son père. Il a pensé à ce qu'il voulait faire, à ce qu'il devait faire, et il l'a fait. Le bien ou le mal que l'on fait vient de ce que l'on a pensé préalablement. On a vu, on voit ici deux exemples de cela. Ces deux exemples nous montrent vraiment que tout ce qu'un homme fait dans sa vie, de bien ou de mal, est le fruit de ce qu'il a pensé. Les paroles même sont déterminées par nos pensée. Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est en de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle de l'abondance du cœur, c'est-à-dire des pensées, de ce que l'on a conçu en son être. Alors quand quelqu'un dit par exemple, j'ai dit cela mais je ne l'ai pas pensé, la Bible s'inscrit en faux contre cela. Parce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors bien sûr, on peut être irréfléchi dans ses propos, on n'a pas peut-être réfléchi à toutes les conséquences que cela aura. Mais quand on dit à quelqu'un quelque chose de bien ou quelque chose de mal, on a pensé à le dire. On peut penser à dire le bien alors qu'on on peut dire le bien alors qu'on pense du mal, bien sûr, mais on pense à ce qu'on fait quand on dit quelque chose. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, j'ai dit ça mais j'ai pas pensé, c'est sorti comme ça mais c'est pas pensé. On a la fraction de seconde avant pensé à ce que l'on a dit. C'est important de considérer la chose. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, il est important de discipliner sa pensée parce que à cause de l'impact plutôt des pensées sur la conduite de la vie. Mais il est aussi important de discipliner sa pensée, ses pensées, à cause de l'influençabilité de nos pensées. Les pensées peuvent avoir un impact, ont un impact dans le comportement, dans la vie, mais aussi les pensées sont influençables. Mes pensées peuvent être influencées dans une direction ou dans une autre. En demandant que des choses spécifiques soient l'objet des pensées. Ici, dans ce passage de Philippiens, l'apôtre Paul sous-entend qu'on peut orienter d'une manière ou d'une autre les pensées. Donc, elles sont influençables. Les circonstances peuvent influencer les pensées. Quand Paul dit, par exemple, au chapitre 1, verset 12, aux Philippiens, « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit, naturellement, ce que l'on pense quand on voit ces circonstances particulières, c'est que, voilà, c'est la catastrophe, l'Évangile ne peut pas se propager, peut-être c'est la souffrance, c'est la douleur. Il dit, il lui est arrivé beaucoup de choses à Paul. Il a été arrêté, emprisonné, 2 ans à Césarée, il a fait un voyage avec un naufrage, il arrive enchaîné à Rome. Les chrétiens de Philippe sont inquiets à propos de sa situation. Et donc, ils ont une pensée qui est dirigée dans un sens. Et Paul dit, je veux que vous sachiez plutôt, c'est plutôt comme ça qu'il faut penser, ce qui m'est arrivé a contribué plutôt au progrès de l'Évangile. Donc, ils réorientent leur pensée à l'opposé de ce que semblent indiquer les circonstances douloureuses qu'il vient de vivre, qu'il est même encore en train de vivre. Et parfois, les circonstances peuvent affecter et influencer notre pensée. J'en veux pour preuve l'histoire de David. Vous vous rappelez de David qui est en fuite devant Saül. Et à un moment de sa vie, David dit ceci au 1 Samuel chapitre 7, verset 1. Il dit, David dit en lui-même, encore une fois, ce sont ses pensées. David dit en lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Je périrai un jour par la main de Saül. Voilà la pensée de David. Mais David, avant de dire cela, il a été roi comme roi par Samuel. Il sait qu'il va succéder à David. L'Éternel le lui a dit, qu'il montera sur le trône, qu'il est le prochain roi. Mais il est dans une telle des circonstances tellement difficiles qu'il finit par oublier cela et il dit je périrai par les mains de Saül un jour. Il faut que je fuie parce que sinon je vais. Ok. Certes, il fallait qu'il fasse des choses, mais il ne périrait certainement pas, puisqu'il est le prochain roi que Dieu a choisi. C'est une promesse même que Dieu lui a faite. Et vous voyez que parfois la pensée peut être influencée par les circonstances extérieures que nous vivons. Et c'est pour ça qu'il est important de les discipliner, dit Paul. C'est pour ça que Paul dit ici, attention, ne faites pas attention aux circonstances que je vis. Voilà comment il faut plutôt considérer les choses. Et voilà comment vous devez penser, si vous voulez, comme moi, connaître la véritable joie au sein même de circonstances qui sont des circonstances difficiles. Le diable cherche à faire chuter les enfants de Dieu en influençant leurs pensées. 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 3, l'apôtre Paul dit ceci concernant la tentation de Ève. Il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il soutient, je crois, ici que la ruse du diable a consisté à influencer Ève dans ses pensées. Il a commencé à parler et à chercher à influencer sa pensée sur Dieu, sa pensée sur les choses, sa pensée sur ce que Dieu avait dit ici, pour pouvoir la pousser à succomber au péché. Et beaucoup de choses peuvent influencer, n'est-ce pas, les pensées et nous faire croire ce qui n'est pas. Alors, parfois, ça peut être les expériences du passé. Certains d'entre nous, nous avons grandi dans des milieux où on nous raconte des histoires qui font peur quand on est petit. Et puis on grandit avec ça. En Guadeloupe, on parle de la diablesse, et puis en Martinique, autre chose. Et tout petit, on entend ces histoires que l'on raconte. Et puis finalement, ça rentre dans la pensée. Et quand on grandit, on pense avec ces choses-là. Alors parfois on a peur de dormir dans le noir parce que voilà, on a appris que quand tu es petit, que voilà, il se passe des choses quand tu ne... Donc plein de choses qui sont des choses fausses, mais qui influencent notre manière de penser, de considérer parfois les choses. Enfin, c'est des superstitions que l'on a. On parlait avec quelqu'un, pas très longtemps, des superstitions au travail, de ce que les gens font sur les chantiers parce qu'ils sont superstitieux. Hein? C'est dans leur pensée, même s'ils disent « Ah, mais je le fais, mais je n'y crois pas. » Mais ils le font quand même. Hein? C'est dans leur pensée chaque fois qu'ils vont sur le lieu de travail. Parfois, le matraquage médiatique que l'on entend, les choses que l'on répète et que l'on répète et que l'on répète, parfois influencent nos pensées. Et on finit par croire que c'est la vérité, parce que tellement de monde le dit. Tellement de monde le dit. Et c'est Hitler qui disait « Répétez suffisamment un mensonge et ça deviendra une vérité. Hein? » Et nous finissons par croire parce que nous nous exposons à des choses qui sont incessamment répétées. Parce que notre pensée, elle est influençable. Donc nous devons être extrêmement vigilants. L'apôtre Paul dit qu'il est important de discipliner sa pensée parce que les pensées sont hautement influençables. Mais il est important de discipliner sa pensée aussi, troisièmement, parce que, à cause de la particularité des pensées, tout simplement. Hein, les pensées sont très... volatile, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit que les pensées sont comme des chevaux sauvages. Ils gambadent ça et là, sans direction précise. Hein? Un coup, ils sont là-bas, un coup, ils sont là-bas. Parfois, on pense à une chose et puis la fraction de seconde après, on pense à l'inverse. Ça nous arrive. Hein? Et donc, notre esprit, oui, il y a une bataille au-dedans de nous. On peut penser une chose et tout de suite après, son contraire. Les pensées, souvent, sont multiples. Le psalmiste dit... Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, il y a parfois des choses qui nous saisissent. Et puis c'est une foule de pensées. J'ai lu sur Internet qu'il paraît, je ne sais pas comment ils ont fait pour mesurer cela, mais que l'on a 60 000 pensées par jour à peu près. Je ne sais pas comment ils ont fait pour... Je sais que les paroles, ils arrivaient à mesurer, mais il paraît que l'être humain a à peu près 60 000 pensées par jour. Et c'est vrai que nos pensées sont nombreuses. Et les pensées sont invisibles. Il est important donc de nous discipliner parce qu'on ne les voit pas. On peut les cacher facilement aux autres. Je peux faire avec mon corps quelque chose et faire le contraire avec mes pensées. C'est ça qui est particulier. Hein. Je peux donner l'impression de quelque chose avec mon corps et puis avoir une direction tout à fait opposée dans mes pensées. Et le verset que nous avons lu au début du passage, dans Proverbes chapitre 23, verset 7, dit exactement la même chose. Il dit, il est comme les pensées de son âme, il dit, comme il a pensé dans son âme, tel il est, il ajoute, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Il te fait croire que, voilà, nous avons une communion ensemble, il dit. Mangeons, buvons, il dit. Mais au fond de lui, ses pensées, dans son cœur, il n'est pas avec toi. Et c'est ça la particularité des pensées. C'est caché, c'est invisible, on ne les voit pas. Et on peut être extrêmement manipulateur en faisant paraître quelque chose à l'extérieur. Et en étant tout à fait le contraire à l'intérieur. Écoutez ce que dit Proverbe 26, 25. Il dit, lorsqu'il prend une douce voix, ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. Ici, il prend une voix gentille pour te dire quelque chose, mais dans le fond, il y a sept fois le contraire, au moins, contre toi. Donc, il est important de discipliner nos pensées parce qu'à cause de la particularité de nos pensées. On peut les cacher aux gens, on peut faire des choses, on les cache pas à Dieu, bien sûr, mais on peut agir d'une certaine manière, être double à cause de nos pensées. Et puis quatrièmement, il est important de discipliner les pensées parce que nos pensées ont de la valeur aux yeux de Dieu. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis le Seigneur Jésus avait dit de toute ta pensée. De toute ta pensée. Donc Dieu veut aussi nos pensées. Il arrive malheureusement qu'en tant que croyants, nous pensons que Dieu veut seulement notre corps. Alors nous nous limitons, nous nous efforçons de ne pas faire certaines choses avec notre corps. mais on donne champ libre, souvent, à nos pensées. Mais Dieu dit ici qu'il veut être aimé avec le corps, mais aussi avec la pensée. Dieu est préoccupé par l'état de nos pensées. Et c'est ce que Jésus montre, rappelez-vous, dans le sermon sur la montagne, quand il parle à ces juifs qui pouvaient dire, voilà comment ils sont, ils servent, ils pratiquent, ils font les choses qui sont droites. Hein. Rappelez-vous de la prière du pharisien, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, hein. Je donne la dîme deux fois par semaine, pour comment il disait, etc. Il fait des choses, il est droit dans sa vie, ouais, physique, devant les autres. Mais Jésus va plus loin que cela. Il met le doigt sur ce qu'il y a à l'intérieur. Quand l'Éternel regarde au cœur, dans les pensées même, et il dit ceci quand il parle de l'adultère, il dit, « Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » S'il y a pensé, il dit, « Pour moi, il l'a commis. » Dans notre monde, comme on ne voit pas les pensées, on ne peut pas les juger. D'accord ? Donc on vous mettra en prison si vous avez volé physiquement. On aura des problèmes peut-être si on a commis l'adultère physiquement, s'il y a plainte qui est déposée. N'est-ce pas ? Mais pour Dieu, même s'il n'y a pas d'acte physique, il dit que c'est déjà condamnable, c'est déjà un péché pour lequel il faut se repentir parce que ça a eu lieu dans la pensée. Parce que la pensée oriente toute la vie de l'homme. C'est de là que tout prend sa source. Et donc, il suffit pas de dire, oui, bon, j'ai pensé à ça, mais je l'ai pas fait, c'est pas grave. Non, devant Dieu, c'est un péché et il faut se repentir aussi pour cela. Lorsque Dieu parle au peuple du temps de Malachie et qu'il le reprend à cause des divorces, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, prenez donc garde en votre esprit. Et il ajoute, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais les répudiations, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit. Il encadre, en fait, quand il parle du divorce, il encadre par ces deux phrases, la même phrase d'ailleurs, prenez donc garde à votre esprit, Malachie chapitre 2, versets 15 et 16, il dit, prenez garde à votre esprit, je hais le divorce, que vous soyez fidèle à la femme de votre jeunesse, et puis il ajoute, prenez donc garde à votre esprit. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Que c'est dans l'esprit que cela se joue, dans la pensée que cela se joue. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est pour cela qu'il faut les discipliner. Parce que si je leur laisse le champ libre, eh bien, je peux déjà pécher sans avoir rien commis de physique ou de visible par les autres. J'ai déjà péché et péché et péché contre Dieu. Et quelqu'un disait que de la pensée à l'acte, il n'y a que l'opportunité qui manque, souvent. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas l'opportunité. C'est pas parce qu'on arrive à se retenir, c'est parfois parce qu'il n'y a pas l'opportunité. Mais si la pensée est déjà là et qu'on la chérit, le jour où l'opportunité sera là, on passera à l'acte. Et donc il est important de discipliner sa pensée. Parce que Dieu accorde une grande valeur aussi à nos pensées. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hein ? » Pas simplement dans le corps, l'esprit aussi lui appartient. Et il faut le glorifier, il faut qu'il soit glorifié aussi dans notre esprit. Deuxième chose que je voudrais souligner ici, donc après avoir vu l'importance ici de discipliner sa pensée, c'est la manière de discipliner sa pensée. L'apôtre Paul dit ici, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est juste, j'ai oublié, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Importance de souligner les pensées, mais comment est-ce, de discipliner les pensées, mais comment est-ce qu'on peut discipliner sa pensée ? Paul dit, voilà, il y a un certain nombre de choses, il dit pensez à ces choses-là. Réfléchissez à ces choses-là. Faites l'effort. Nous devons souligner que l'apôtre Paul ne dit pas que le croyant doit développer des pensées positives. Hein? Ça, c'est la grande mode aujourd'hui. Hein? On développe des pensées positives. Le concept de la pensée positive a gagné le monde chrétien. Il y a de grands prédicateurs qui nous prêchent maintenant la pensée positive. Hein? Et Joyce Meyer et autres. Hein? Voilà, il faut se prendre en main. Hein? Sortir de sa zone de confort, faire des choses. Hein? Penser positivement. Écarter les pensées négatives. Le péché n'est plus un péché, ça devient une pensée négative qu'il faut éliminer, qu'il faut écarter et remplacer par des pensées plus valorisantes de soi. Et si on pense plus positivement à soi, si on s'estime davantage, eh bien, on verra qu'on vit beaucoup mieux. J'entendais même quelqu'un à une radio qui disait, voilà ce qu'on doit se répéter tous les jours. Alors, je ne sais pas si vous voulez dans le même sens, mais je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Dis ça à quelqu'un qui perd son travail. Je vais de mieux en mieux. Quelqu'un qui a un cancer. Je vais de mieux en mieux. Voilà ce qu'il doit se dire. Avoir une plus haute estime de lui-même. Ça s'appelle le déni de la réalité, tout simplement. Parce qu'on ne va pas de mieux en mieux. Le problème, c'est que la Bible affirme complètement le contraire. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit à l'homme, ayez une haute opinion, une plus haute opinion de vous-même. On ne trouve pas ça dans la Bible. Mais on trouve exactement le contraire. Romains chapitre 12, que dit l'apôtre Paul, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modeste. Le problème, c'est que l'on a une haute opinion de nous-mêmes, vous et moi. Naturellement, nous avons une haute et bien trop haute opinion de nous-mêmes. Donc notre problème n'est pas de penser positivement nous-mêmes. Le problème, c'est que nous nous surestimons. Et nous avons besoin, comme la parole nous dit, de penser juste à propos de nous-mêmes. Et donc l'Écriture propose ici, dans le passage que nous lisons en Philippiens, un ensemble de filtres, on pourrait dire, par lesquels nous devons traiter nos pensées. Il faut que les pensées passent à travers chacun de ces filtres. La vérité, la justice, l'honorabilité, les choses qui sont aimables, les choses qui sont dignes de louange et vertueuse. Donc je vais en voir quelques-uns, parce qu'on n'aura pas le temps de les voir toutes ici. Mais d'abord, le filtre de la véracité. Au reste, frère, dit l'apôtre Paul, voilà comment vous devez discipliner vos pensées. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donc le premier garde-fou, on pourrait dire ici, c'est la vérité. Tout ce qui correspond à la réalité. Et on voit l'importance ici de déterminer la réalité d'une chose avant d'en faire ici l'objet de nos pensées et d'en faire un débat en notre esprit. On ne se soucie guère de la vérité de nos jours, n'est-ce pas ? Les médias sont pressés de révéler parfois une information et elle ne prend pas toujours les précautions pour vérifier sa véracité. On en a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps de cet homme qui a été arrêté, rappelez-vous, qui est parti à, je ne sais plus quel, il a été arrêté... J'oublie le pays, hein. En fait, c'est un pays en Écosse, voilà. Et on croyait que c'était le médecin qui avait assassiné sa famille depuis qu'on cherche depuis plus de 7 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et il y avait des caméras du monde qui commençaient à se rassembler autour de la maison de cet homme à, je sais plus où est-ce qu'il habitait en France, etc. Et puis, 2 jours après, eh bien, il y avait des gens tout tristement en train de faire des excuses sur les radios pour dire voilà on s'est trompé quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut être le premier à divulguer l'information, il faut être le premier à pouvoir montrer des choses. Alors on va vite, parfois on n'a pas le temps de vérifier et voilà, être le premier est plus important qu'être vrai. OK, donner en tout cas l'apparence d'être le premier, mais penser droitement est important pour qu'une vraie vie de joie se développe. Notre Paul ne dit pas que ce qui a l'apparence du vrai soit l'objet de votre pensée, mais ce qui est réellement vrai soit l'objet de votre pensée. Tout ce que l'on entend, chers frères et sœurs, n'est pas vrai. Tout ce que l'on voit n'est pas vrai. Et tout ce que l'on comprend parfois n'est pas vrai. Donc le commandement ici, c'est non seulement de forcer la pensée à ce qui est vrai, mais de la détourner aussi de ce qui est faux, de rejeter vraiment ce qui est faux. Mais comment connaître la vérité? Eh bien, je crois que, en tant que chrétien, la première chose que nous devons faire, c'est nous attacher à la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et Jésus dit, avant, dans les mêmes évangiles de Jean, donc ce que je viens de citer, c'est Jean 17, 17, mais en Jean 8, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. » Mais je crois que si on s'attache vraiment à imbiber notre esprit avec la parole de Dieu, eh bien on s'attache à la vérité. Et ce que l'on va penser, notre manière même de penser, ira dans un certain sens. Et on pourra ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus et faire des mensonges que l'on entend l'objet de notre pensée. De quoi est-ce qu'on est affranchi? On est affranchi de l'erreur dans beaucoup de domaines. Parfois, il y a des chrétiens qui trimballent encore des pensées de la vie passée concernant le diable ou ce que le diable peut leur faire des fois, hein, parce qu'on ne connaît pas la vérité de la parole de Dieu. Au lieu de penser au diable, il faut penser à Dieu. Job a souffert, c'est vrai. Le diable a été là pour l'attaquer, c'est vrai. Mais à aucun moment vous n'entendez Job parler du diable. Jamais. Il parle de Dieu. Pour lui, c'est Dieu qui est l'auteur de ce qui lui arrive. Et c'est vrai. Et c'est Dieu qui peut le délivrer de la situation dans laquelle il est. Il n'a jamais son regard sur les circonstances, ni sur le diable. Il a sur Dieu. Ses pensées sont sur Dieu. Et c'est ainsi que l'on doit agir aussi. Si la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs, eh bien la Bible dit qu'on connaît la vérité. La vérité nous libère de toute autre chose fausse. Deuxième filtre, rapidement, eh bien, il parle du filtre de l'honorabilité. Le reste, frère, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Alors, je vous lis d'autres traductions. Disent tout ce qui mérite d'être respecté. Toutes les choses qui sont vénérables. Okay. Et le mot est traduit parfois dans certains lieux par le mot grave. Dans 1 Timothée 3, verset 8, quand il parle des diacres, par exemple, l'apôtre Paul, donc la version d'Arby, dit ceci. De même, il faut que les serviteurs soient graves. Et la même chose pour les femmes aussi. Les femmes doivent être graves. C'est pas dire qu'elles doivent avoir une voix grave, hein, mais ça veut dire qu'on a une idée de quelque chose qui est, quand on dit que c'est grave, c'est que c'est très sérieux. Quelque chose peut être vrai et pas sérieux. Eh bien, ça ne doit pas faire l'objet des pensées, dit l'apôtre Paul. Il faut qu'elle soit non seulement vraie, mais aussi que ce soit quelque chose qui soit digne de respect, quelque chose de sérieux. Ok? Il ne suffit pas de dire, mais c'est vrai ce que j'ai regardé à la télévision. Oui, mais c'était sérieux ça. C'est les seules choses qui sont vraies, mais est-ce que ça mérite vraiment d'être, comme on l'a dit ici, d'être respecté, d'être étudié ce que tu es en train de regarder. Donc il y a ici donc l'idée de quelque chose qui est respectable. Et puis troisièmement, l'apôtre Paul dit ici que le filtre doit être aussi le filtre de la justice, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, mais tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Le dictionnaire biblique donne plusieurs sens à ce mot. Donc il y a le sens large qu'on lui connaît, juste devant Dieu, etc., tout cela, mais il y a aussi le sens plus étroit de rendre à chacun selon son dû, dans le sens judiciaire, dit le dictionnaire, de porter un juste jugement sur les autres. Et voilà parfois ce qu'il y a dans nos pensées. On porte des jugements sur les personnes. Je parlais à quelqu'un qui me disait ça. Oui, peut-être je me trompe, mais je pense que les gens font comme ça. Et on est comme cela parfois. Hein. On porte des jugements qui ne sont pas toujours justes sur les choses ou sur les gens. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que la justice est représentée par une balance, hein? La balance, ça donne l'idée de quoi, en général? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir avec une balance? Un équilibre entre deux choses. Et l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas considérer qu'un seul aspect des choses. Il faut mettre sur le plateau tout et établir un équilibre, de voir de quel côté la balance penche. Mais souvent, lorsque nous rendons un jugement contre quelqu'un, nous prenons une chose. Peut-être la dernière chose que la personne a faite. C'était peut-être une erreur. Et on voit à travers juste ce prisme-là. D'accord? Juste à travers l'erreur que quelqu'un a faite. Toute sa vie, il a fait de bonnes choses, on oublie tout cela. Et on prend juste la faute. Ou on peut faire l'inverse. Peut-être la personne, elle a fait commis des fautes et puis on ne regarde que la bonne chose qu'elle a commise pour tirer qu'elle a faite pour tirer un jugement. Eh bien, l'Écriture dit que ça, il faut être équilibré. Il faut rendre à chacun selon son dû, hein, c'est le sens que donne ici le dictionnaire biblique. Il faut être équilibré. Et je pense que c'est pour cela que l'apôtre Paul, regardez au chapitre 4, quand il parle d'Évodie et Saint-Tiche, il dit quoi? Il dit, il parle à son fidèle collègue, verset 3, il dit, « Et toi, fidèle collègue, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. » Pourquoi il dit ça? Il suffisait de dire de les aider un petit peu. Eh bien, parfois, quand on va dans des situations difficiles, on a tendance à peut-être à se focaliser seulement sur une chose que la personne a faite. On a besoin de prendre l'ensemble de la vie de quelqu'un ici pour avoir une idée juste. Alors, bien sûr, quelqu'un peut fauter, bien sûr, quelqu'un peut chuter, mais on ne doit pas regarder quelqu'un à travers seulement une chute qu'il a commise. On doit être juste et prendre l'ensemble, considérer l'ensemble des choses pour avoir une idée juste sur les personnes. C'est ce que Paul fait ici, je crois, en rétablissant l'équilibre afin que la pensée de ce fidèle collègue soit juste à propos de ces deux sœurs qu'il est amené à exhorter. Donc, chers frères et sœurs, je résume en disant qu'il est important pour nous de discipliner, selon l'Écriture, nos pensées. Et l'Écriture nous dit, on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais comment nous devons le faire? En nous proposant un filtre à travers lequel toutes nos pensées doivent passer. Toutes les pensées doivent cocher ce filtre-là. Et je dirais, donc, il est important pour nous, en conclusion, de veiller vraiment sur les portes de nos pensées. Veiller sur les portes de nos pensées. Dans son livre, La guerre sainte, que nous avons lu avec Vincent sur John Bunyan, vous vous rappelez que il était question des portes, hein, d'entrée dans âme humaine. Ceux qui ont lu le livre, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Il y avait 5 portes, je crois, hein, ici. Il dit, cette ville célèbre de l'âme, j'ai repris quelques sections, il dit, avait 5 portes par lesquelles on pouvait entrer ou sortir. Mais elle était construite de la même façon que les murs. C'est-à-dire qu'on ne pouvait les forcer. Et que pour les ouvrir, il fallait le bon vouloir ou l'autorisation des habitants. C'est de l'intérieur qu'on ouvre les portes. Autrement dit, nous avons la responsabilité de garder les portes soigneusement fermées sur certaines choses et les ouvrir sur d'autres. Et personne ne peut forcer les portes. Satan n'a pas forcé la porte chez Ève. Il a fait quoi? Il a influencé, il a dit des choses pour qu'elle-même, de son côté, elle puisse ouvrir. Parce que la Bible dit après, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et alors, elle en a pris. Mais ce n'est pas Satan qui a pris le fruit, il l'a forcé à manger. Il a simplement parlé, influencé, amené des choses aux oreilles, aux yeux. D'accord? Vous comprenez? Pour nous, ce que nous mettons sous nos yeux, ce que nous mettons dans nos oreilles comme musique, sous nos yeux comme des films, ne nous contentons pas de dire « Oh, c'est juste un reportage. » Et parce que c'est un film et pas un reportage, ou parce que c'est un reportage et pas un film, c'est plus acceptable. D'accord? Tout ce que nous mettons sous nos yeux, tout ce que nous mettons dans nos oreilles, ont un impact direct sur nos pensées. Ève en a fait la mère expérience. Et vous voyez où cela nous a conduit. Et donc, il est important pour nous de veiller, comme il était dit dans ce livre de la guerre sainte, sur les portes de l'oreille, les portes des yeux. Parce que nul ne peut forcer l'accès à nos pensées. c'est nous qui donnons accès à nos pensées. Donc demandons au Seigneur la force de résister. Chaque fois que je m'expose à quelque chose, j'ouvre une porte d'accès à mes pensées. Chaque fois que je m'expose à quelque chose, j'ouvre une porte d'accès à mes pensées. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est que est-ce que cette chose, elle est vraie? Est-ce qu'elle est digne d'intérêt? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est digne d'amour? Est-ce qu'elle est digne d'approbation, vertueuse ou digne de louange? Est-ce que je pourrais la faire avec la présence du Seigneur juste à mes côtés? Si je dois le lui cacher pour le faire, c'est que je ne remplis pas les conditions du filtre. Je ne dois pas rester exposé à ces choses. Est-ce que je dois vite éteindre le poste si le Seigneur entre dans la pièce? Eh bien, c'est que je faisais quelque chose qui n'est pas digne et qui ne répond pas au filtre que l'Écriture nous propose ici. Quelles sont nos habitudes? Nous devons considérer nos habitudes. Toute convoitise, disait John Owen, est une habitude ou une disposition dépravée qui incline continuellement nos cœurs à faire le mal. Quelqu'un disait que semer une pensée, on récolte un acte. Semer un acte, on récolte une habitude. Et semer une habitude, on récolte un caractère. Et donc nous avons besoin de veiller premièrement à nos pensées. Et peut-être si nous sommes déjà au stade de l'habitude, eh bien que nous demandons à Dieu la force d'abandonner ces choses. Mais surtout, de ne plus nourrir nos pensées avec ce qui nous conduit dans cette habitude. Et la parole de Dieu, je termine avec cela, doit être l'influence sous laquelle je place mes pensées. Les vertus que Paul indique ici viennent de la parole de Dieu. Les vérités de l'Écriture doivent façonner continuellement nos pensées. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon ta parole. C'est-à-dire qu'il fait cette parole pénétrer dans ses pensées. Et c'est ainsi qu'il peut se diriger comme Dieu le veut. Je lis le verset ainsi. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et Paul ne dit pas que tout ce qui est vrai, point. On doit tout prendre. Donc cette semaine, quand nous allons faire les choses, quand nous allons penser à propos de quelqu'un, quand réfléchissons, prenons ce verset, mettons-le sous nos yeux et puis posons-nous la question. Est-ce que je peux cocher toutes les cases avec ça? Sinon, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Je dois m'en écarter. Si je veux expérimenter la vraie joie et la vraie paix que Dieu donne. Prions. Nous te remercions Seigneur pour ta parole. Et te demandons que tu nous aides. Nous sommes conscients que nous n'avons en nous-mêmes aucune force, par nous-mêmes aucune force, pour vivre ainsi. Mais ta parole nous commande de penser de cette manière. Et nous voulons nous y soumettre et obéir. Donne-nous des cœurs obéissants. Que ton esprit agisse dans nos cœurs pour détourner nos pensées de ceux qui ne te glorifient pas. Que ton esprit nous aide pour que nous puissions alimenter nos pensées avec des choses qui viennent de toi, ta parole, et que nous voyons dans ta parole. Que ta parole puisse faire tout le jour l'objet de notre méditation. Nous te prions de nous aider ainsi. Nous te prions, Seigneur, que tu touches aussi le cœur de ceux qui sont là et qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que tu les attires à toi. Et Seigneur, peut-être ils sont encore ennemis de Dieu par leurs pensées et par leurs mauvaises œuvres. Et je te prie que tu touches leur cœur. Et que tu remplisses leur cœur et leurs pensées de choses nouvelles, afin qu'ils t'honorent et qu'ils te glorifient. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.